studio Tamani, voici nos informations en français.
Studio Tamani, il est 18h à Bamako, le journal avec Seydou Fama, bonsoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU envisage de prendre des sanctions contre les personnes qui font obstruction à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali selon la France et les États-Unis. La Russie et la Chine optent plutôt pour un rôle constructif du comité de sanctions de l'ONU. Lancement d'un programme de formation des jeunes au Mali avec l'appui de l'Union européenne. Avec ce projet, près de 13 milliards de francs CFA seront investis dans la formation de la création d'emplois pour plus de 8 000 jeunes. Dans les communes nomades du nord du Mali, la scolarisation des filles reste une préoccupation majeure. C'est le cas de Tessit, une commune de la région de Gao. Dans cette localité, les filles sont difficilement scolarisées. Auditrice auditeur, bienvenue. La France et les États-Unis d'Amérique ont affirmé ce mercredi au cours d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU que l'ONU plutôt va entreprendre prochainement d'identifier et imposer des sanctions contre les personnes qui font obstruction à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. De leur côté, la Russie et la Chine optent pour un rôle constructif du comité de sanctions de l'ONU, mais dans le strict respect de la souveraineté du Mali. Le détail avec Fatih Yatara.
Selon l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre, les retards conséquents dans l'application de l'accord de paix de 2015 nous conduisent à devoir aller plus loin. Pour la diplomate américaine, Amy Tachko, il est temps d'identifier les responsables et prendre les mesures qui s'imposent. Selon elle, aucun progrès substantiel n'a été réalisé dans l'application de l'accord. L'ambassadrice britannique Karen Pierce s'inscrit aussi dans cette logique. L'objectif, selon l'ambassadeur français, est de viser dans un premier temps une série de responsables de la coordination des mouvements de la Zawad, de la plateforme et du gouvernement qui nuit à l'application de l'accord sur le terrain, notamment par leur collusion avec des groupes terroristes ou des activités de trafic. De son côté, le ministre malien des Affaires étrangères Tiémant Ibér Coulibaly, présent au Conseil de sécurité, a défendu l'action du gouvernement, assurant que les petits pas accomplis pour rétablir la confiance entre les acteurs étaient des pas sûrs. En janvier, l'ONU avait accordé jusqu'à fin mars aux parties maliennes pour montrer des avancées dans l'application de l'accord de paix signé en 2015, faute de quoi elle s'exposerait à des sanctions pour obstruction.
Il faut rappeler que c'est à la suite d'une demande du gouvernement malien au mois de septembre 2017 que le Conseil de sécurité avait adopté un régime général de sanctions face au risque d'effondrement de l'accord de paix. Parmi les sanctions éventuelles, l'ONU peut décréter des interdictions de visa et geler des avoirs. Le comité de sanctions a déjà effectué des missions au Mali. Il a présenté hier son rapport à l'ONU, selon le chef de l'aménagement. Pour Mamadou Salé Anadif, le régime des sanctions est un levier indispensable pour faire avancer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Écoutons sa réaction au micro de nos confrères de l'ONU TV.
Nous estimons que malgré les retards, que nous reconnaissons d'ailleurs, on a de l'espoir que c'est aujourd'hui un outil essentiel pour trouver une solution politique au problème malien. Les sanctions, c'est d'abord une demande malienne. C'est le gouvernement malien qui a écrit aux membres du Conseil de sécurité pour dire que bon, ok, il y a énormément de retards, nous reconnaissons. Faisons un régime de sanctions et nous sommes prêts pour être sanctionnés, qu'on dise qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi depuis que le comité d'experts a été mis en place. Ils ont fait 2 missions déjà au Mali. Ce matin, le président du comité a fait son rapport et j'estime que c'est un levier extrêmement important qu'il nous faut utiliser, quelles que soient les conditions.
Et réagissez à ces informations sur la page Facebook de Studio Tamani et sur son compte Twitter. Vos réactions sont également les bienvenues sur le répondeur au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. La rencontre des partenaires techniques et financiers du projet d'aménagement de Taoussa s'est tenue ce matin à Bamako. La rencontre portait sur la lutte contre la désertification et la création des activités régénératrices de revenus dans la zone de Diré et Labezanga. Le projet d'un montant et le projet donc est financé à hauteur de plus de 167 millions de francs CFA par le fonds arabe. Il s'agit plutôt de 167 milliards de francs CFA par le fonds arabe, les institutions africaines et le gouvernement du Mali pour une durée de de 6 ans. Alassane Nombaïga, directeur général adjoint de l'autorité pour l'aménagement de Taoussa, au micro de Louise Moncoro.
Et de donner des activités régénératrices de revenus dans la zone. Donc le projet permettra de refaire vivre cette zone en améliorant le système d'irrigation dans le fleuve et en diminuant l'écoulement de l'eau dans la zone, à partir du barrage jusqu'à la sortie de la frontière du Mali avec le Niger. Il permettra également de faire aménager 139 000 hectares de terres en maîtrise totale des cultures. Donc les éleveurs, aussi bien que les populations agricoles, auront de quoi à faire vivre leurs animaux et à produire également suffisamment de céréales pour pouvoir faire face à leurs besoins. Aujourd'hui, si cette zone-là est réellement aménagée avec le barrage de Taoussa, ça serait un deuxième office du Niger pour le Mali. Le Mali connaîtra dans cette zone-là une havre de paix.
Un programme de formation des jeunes a été lancé hier par le gouvernement du Mali avec l'appui de l'Union européenne. Ainsi, un montant de près de 13 milliards de francs CFA sera investi dans la formation et la création d'emplois pour plus de 8 000 jeunes des régions de Kaye, Koulikoro, Gao et du district de Bamako. Selon le directeur de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, ces fonds visent aussi à éviter l'immigration irrégulière des jeunes. Mamadou Fofana, directeur général de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, au micro de Mamad Babakunta.
Le gouvernement de la République du Mali et l'Union européenne ont mis en place cette synergie pour faire en sorte que les jeunes candidats à la migration irrégulière soient accompagnés sur place pour qu'on puisse développer le Mali et qu'on fasse de sorte aussi que les migrants qui sont de retour volontaire puissent être accompagnés pour qu'ils ne soient pas laissés à leur propre compte. Et au bout de 4 ans, le projet touchera directement 8620 jeunes qui seront tous formés en entrepreneuriat, en compétences de vie, mais aussi dans des modules techniques comme l'horticulture, l'agroalimentaire, l'artisanat ou la transformation des déchets. Et parmi les 8620 jeunes, les meilleurs qui géreront le kit fonds d'amorçage recevront un financement complémentaire qui varie entre 750 000 francs CFA et 7 500 000. Ce qu'il faudra ajouter, c'est un effort énorme parce que ces fonds ne sont pas remboursables. Donc, c'est des fonds qui sont donnés aux jeunes pour qu'ils puissent s'installer à leur propre compte.
Dans les communes nomades du nord du Mali, la scolarisation des filles reste une préoccupation majeure. C'est le cas de Tessit, une commune de la région de Gao. Dans cette localité, les filles sont difficilement scolarisées et même quand elles le sont, elles n'achèvent pas leurs études. Si certaines sont confrontées à des conditions difficiles d'études, d'autres sont victimes des mariages précoces. C'est un reportage de notre correspondant à Tessit, Mohamed Lamine Sissé.
Selon les responsables de l'école fondamentale de Tessit, sur 60 filles inscrites en classe de première année, seulement une dizaine atteint la sixième année et à trois arrivent au second cycle. La plupart finit par abandonner. Monsieur Mohamed Agbelkou est père de famille. Il donne les facteurs qui expliquent cette situation.
Le premier facteur, c'est le fardeau des tâches ménagères que les jeunes filles exécutent à la maison. En aidant leur mère à ces tâches, elles ont moins de temps à consacrer aux études. Le deuxième facteur, c'est la tradition. Dans la tradition, la jeune fille doit être préparée à la vie conjugale. Le troisième facteur, c'est le mariage précoce. La jeune fille est donnée en mariage en plein cycle d'études, ce qui l'oblige souvent à interrompre ses études.
Ce dernier motif est dénoncé par la jeunesse de la localité. Le secrétaire général du conseil communal des jeunes de Tessit, Moussa Aguibrahim, invite les parents à laisser les filles poursuivre leurs études.
C'est un phénomène vraiment déplorable de la commune de Tessit, de voir que la grande majorité de nos sœurs ne continuent pas leurs études. Une situation déplorable. Pour des raisons futiles, soit les mariages, soit les tâches ménagères. Alors qu'on sait que les deux peuvent se combiner. Laisser la femme partir à l'école. À midi, elle va revenir aider sa maman. Dans l'après-midi aussi, elle peut revenir aider. Elle continue ses études. À la fin de ses études, elle revient, elle fait son mariage.
Du côté des autorités communales de Tessit, des actions en faveur de la scolarisation des filles sont en cours. Cependant, elles souhaitent avoir le soutien et l'accompagnement des partenaires de l'école. Rally Agui Intekeshimen, conseiller communal à Tessit.
La mairie informe, sensibilise les parents d'élèves pour que les filles aillent à l'école en même temps que les garçons. La mairie est en train de chercher des partenaires pour la construction des salles de classe, pour même améliorer les cantines là où elles existent et en créer avec des partenaires de l'école là où les cantines ne se trouvent pas.
À Tessit, des mesures urgentes s'imposent aujourd'hui pour inverser la tendance et mettre l'accent sur la scolarisation des filles. Comme le dit un adage, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. De Tessit, Mohamed Lamine Sissé pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Direction l'intérieur du pays à présent. Deux voleurs ont été arrêtés hier à Kossi et transférés à Gao. Ils sont soupçonnés de faire partie d'un réseau de voleurs de panneaux solaires et de batteries des réseaux téléphoniques. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour retrouver leurs complices. Quatre personnes ont été enlevées mardi dernier à Mbouna, dans la commune de Kona. Cette des mortis, il s'agit du comptable du centre de santé de référence de Yuwaru, du chef du CESCOM de Bido Saré, d'un chauffeur et d'un conducteur de finance. Ils se rendaient tous à Mopti lorsqu'ils ont été arrêtés et amenés de force par des individus armés. Pour le moment, ils sont introuvables. La coordination Benkoutou des organisations féminines de Sero Djamounou a tenu hier à Kédougou, dans la région de Kaye, sa rencontre trimestrielle. Après la présentation du bilan des activités menées, elle a octroyé à ses membres demandeurs plus de 2 300 000 francs CFA dans le cadre du crédit solidaire, dont le taux d'intérêt est de 5%. La prochaine réunion se tiendra en juillet à Sarapapa. Le Grand Dialogue, votre émission débat de tous les soirs, c'est à suivre dans quelques minutes avec Mohamedou Touré. Bonsoir.
Bonsoir, c'est Lou Fomba.
Que proposez-vous comme sujet à vos auditeurs et à vos téléspectateurs ce soir?
Deux principales questions. Pourquoi voter et comment voter? Et nous avons trois personnes qui vont répondre à ces questions. Bissiri Koulibaly, président de l'Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections. Ibrahima Kébé, commissaire principal de l'association Faso Kanou. Et Maître Zana Kone, avocat au barreau du Mali et porte-parole du mouvement pour la justice sociale.
Bon débat à vous et à vos invités. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fama avec une mise en onde de Gagné Kanté. Merci de l'avoir suivi dans un instant des magazines.